Directons jeu de Radio Insolite, bonjour à tous et bienvenue dans ces périodes où nous venons de rentrer en direction du 25... Ah non, mais le 25 décembre, c'est vrai que le Père Noël n'a pas le droit de venir. Bonjour Albert.
Bonjour.
Dis-moi Albert, est-ce que tu vas, parce que tu as l'habitude de fêter en famille les fins d'année?
Oui, oui. Et... c'est jamais tout à fait complet, il n'y a jamais tous les gens qu'on espère, ouais. Mais en général, oui.
Et est-ce que tu as décidé là où tu te mettrais?
À table ou ailleurs?
Non. Tu as le choix, soit tu vas à la cuisine, soit tu vas dans la cave, soit tu vas dans la voiture, soit vous êtes tous à table.
Il est préférable que je ne sois pas dans la cuisine.
Petit côté clin d'œil humoristique pour démarrer.
Non, il est préférable que je ne sois pas dans la cuisine. Ce n'est pas que je ne sais pas cuisiner, d'abord parce que je suis paresseux, et puis en même temps, je laisse un bazar terrible. J'effraie tout le monde quand je suis dans la cuisine. On a l'impression que c'est un maelstrom qui est passé. Donc dans la cuisine, non. Non, j'essaie simplement de veiller un peu au bien-être de chacun ou de chacune, de discuter parce qu'il y a des gens qu'on a, des enfants qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et puis ça dépend le nombre de jours qui restent, et puis en même temps, il faut faire attention aux susceptibilités, bref, comme toutes les réunions de famille. C'est vraiment pas original, mais c'est un plaisir.
Monsieur Albert Benloulouf, bienvenue à vous sur Direct en Jeu. Merci à nouveau de se retrouver. Tu as été l'un de ceux que j'ai eu le plaisir d'accueillir durant l'été sur les quartiers d'été à Aix-les-Bains, en Rivière des Alpes. Et là, j'ai découvert que tu avais un point commun avec quelqu'un d'un peu connu, un dénommé Antoine de Caunes. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, ce nom-là.
Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que je le sens proche. Alors, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé juste une ou deux phrases, mais on a toujours été, comme des rails de chemin de fer, quoi. On est parallèles, on se rejoint jamais. Et c'est très bien qu'on se rejoint jamais, parce que si les rails se rejoignent, le train déraille, quoi. On s'est vu, ma femme était libraire à Paris, avenue de Suffren, il habitait avenue de Suffren, moi je travaillais chez Fayard, j'étais déjà l'agent de Frédéric Dard. Et puis un jour, un mauvais jour, j'ai appris la mort de Frédéric. Et en traversant le Champ de Mars, et j'étais triste comme un saule pleureur. Et j'ai croisé un type sur un banc qui pleurait aussi, et c'était Antoine de Caunes. Et on s'est regardé, il m'a reconnu, il savait qui j'étais. Et évidemment, je vois, et il m'a dit « quelle putain de journée ». Il adorait Frédéric, je crois même qu'il a dit quelque part j'ai plus pleuré le jour de la mort de Frédéric que le jour de la mort de mon père. C'est dire. Voilà, c'est quelqu'un qui est bourré de talent, et qui a une culture à la fois de choses modernes et de choses passées étonnantes. Il a fait un film sur Napoléon à Sainte-Hélène, donc personne ne s'attendait qu'Antoine de Caunes fasse ça. Simplement, je crois que c'est après avoir été passionné par la lecture du mémorial de Sainte-Hélène. Il a fait des facéties sur Canal+, avec Gildas et son compère,
José Garcia,
qui restent des morceaux d'anthologie qui sont vus.
Énorme.
Et tout ça, parce que c'est quelqu'un qui a... il a été élevé à la bonne mamelle, hein. Georges de Caunes, c'était pas rien, un peu frappé aussi, mais dans le bon sens, et puis l'immense talent.
C'était le début de la télévision, si je puis me permettre.
Oui, mais il n'y avait pas que des gens comme ça.
Oui.
Il y a toujours, à tous les moments, quand on parle du passé comme ça, il y avait des gens très talentueux, très inventifs, puis il y avait aussi des pisse froids. Mais de Caunes, c'était une sorte de poète du moment, quoi. En plus, il était beau, il présentait bien, mais c'était un aventurier. Aller dans les années 60 sur une île déserte avec son chien, alors que personne ne lui demandait rien, c'était pas l'époque des aventuriers, c'était quand même pas banal, quoi.
Tu parlais de sa maman.
Pardon ?
Tu parlais de sa maman.
Oh oui, sa maman, moi j'étais ado, alors on regardait la télé, il n'y avait pas 50 chaînes.
Et non.
Il y avait Catherine Langer qui faisait la cuisine avec je ne sais plus qui. Et puis il y avait Jacqueline Jouvert. C'était des femmes belles, pas des belles femmes, des femmes belles. Voilà. On voyait la speakerine, c'était, elles annonçaient le programme à venir. Alors après, elles ont fait des émissions, etc. Mais c'était des dames qu'on aimait bien. Elles faisaient la liaison entre la pièce où on se trouvait et le monde de la télévision. c'était, bon, c'est ancien. Je ne dis pas que c'était bien, je ne dis pas que c'est moins bien maintenant. Je dis que c'était quelque chose qu'on aimait bien. Voilà. Ah bah c'est... Tout le monde adorait les speakerines. Mmh. Ouais.
Je parlais au début du point commun que tu avais avec Antoine de Caunes. En fait, Frédéric Dard vous a les deux mis en valeur.
Pas pour les mêmes raisons. Je crois d'abord qu'Antoine de Caunes, il a été connu par Frédéric Dard avant que moi, avant qu'on se connaisse. Mmh. Donc, il avait... c'était... Il sentait en Antoine, il me l'a dit d'ailleurs, il sentait en Antoine de Gaulle des dispositions presque de fils adoptif. Mmh. Il c'était Frédéric Dard jeune. Il sentait. Alors, il s'est jamais vraiment bien exprimé, sauf ce film magnifique qu'il a fait, je crois qu'il n'a pas été une réussite commerciale, qui s'appelait Monsieur N. Il a commis quelques livres, Odyssée au fleuve noir d'ailleurs. Mmh. Qui sont pas mauvais, mais qui sont pas géniaux, et puis sans doute qui n'auraient pas été édités si c'était pas Antoine de Caunes qui les avait signés, ça c'est possible, hein. Mais il y avait un jour, Frédéric m'avait dit, un jour ce type il va exploser, parce qu'il y a tellement de choses en lui. Alors c'est pour ça qu'il est toujours jeune, Antoine de Caunes. Je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est pas le genre à présenter les actualités du passé, hein. Mmh. Il a une culture phénoménal dans plein de domaines. Et puis j'ajouterais que ce qui allait avec Frédéric, c'est qu'il a cette culture du cœur, quoi. On sent que c'est quelqu'un qui a du cœur. Et puis il a sa vie personnelle, il est injoignable, voilà. C'est quelqu'un que je connais assez peu. Je le connais parce que je l'ai lu, parce que j'ai entendu parler de lui et parce que j'ai vu dans ce qu'il a fait. Et Antoine de Caunes, c'est quelqu'un que j'aime bien, voilà. Non pas que j'aime bien, mais que j'aime beaucoup. Voilà.
Alors justement, moi, si j'ai souhaité avoir cet échange avec toi, c'est parce que dans le contexte actuel, je me dis, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'écouter de la musique ou de lire des livres? Et alors, moi, Thierry, qui est à côté de Saint-Étienne, m'a dit, je profite de ce confinement, entre guillemets, pour me refaire toute la collection de tous les San Antonio. Est-ce que c'est ça, ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on peut se refaire plaisir si on les a déjà lus ou découvrir cet univers?
C'est ambigu cette question, parce que soit on est dans l'impossibilité de travailler ou de faire ce que l'on fait habituellement.
Ah, tout à fait.
Voilà. Et donc on fait par compensation. Et quand on fait quelque chose par compensation, on a juste une chance, c'est le hasard. Quand on fait quelque chose, ça veut dire que si les choses reprenaient leur vie le lendemain matin, on cesserait de le faire. Si on a décidé de faire, de lire tout Balzac, j'ai jamais lu Balzac, je vais lire tout Balzac. Je vais relire tout San Antonio. Et puis si demain on vous annonce que le boulot reprend, etc., on arrête. Je crois pas que c'est cultiver, ce soit ça. On peut boucher les trous. Mm-hmm. On peut. Alors il y a une phrase que je déteste, c'est tuer le temps. Alors, il y a plusieurs manières de tuer le temps. C'est terrible de tuer le temps. Franchement, on n'en a pas beaucoup. Temps, à une heure de sa mort, on voudra additionner le nombre de fois où on a mis la clé dans une serrure sur toute sa vie pour l'avoir en plus. Mm-hmm. Et donc, on ne saurait tuer le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse toujours des choses primordiales et pas accessoires. Donc, si c'est pour remplacer le quotidien, écouter de la musique, lire, peindre, que sais-je encore,
parce qu'on peut pas s'occuper
parce qu'on peut pas faire autrement.
Oui.
Ça arrive en compensation tout de l'essentiel. Mmh. Et donc c'est pas toujours un compliment qu'on fait.
D'accord. Ça veut dire que c'est pas une démarche active, c'est un trou, quoi.
Non, moi si je décide de relire San Antonio, ça veut dire que ça devient une priorité, quoi. Faut pas m'emmerder si j'ai dit ça. Non, faut pas de téléphone, pas de télévision, pas de machin, et je m'occupe de ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand on essaie de tuer le temps ou d'occuper, c'est ce qu'on appelle de la curiosité au rabais. C'est dur ce que je dis, mais je le pense.
Ah, mais c'est peut-être pas l'occasion justement d'aller découvrir des choses que j'ai jamais pris le temps d'aller découvrir.
C'est l'occasion. Il y a un double sens dans l'occasion.
Je vais arrêter de parler, moi. Non, mais si, parce qu'à un moment donné, si tu veux, en ayant ce temps, entre guillemets, de disponible, ça me permet de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire.
Regarde, par exemple, lorsqu'on travaille, et qu'on a ce qu'on appelle cette chose merveilleuse qu'on a en France qui s'appelle des congés payés.
Oh et ben, j'achète des mots fléchés et je prends les livres de la bibliothèque rose.
Non, mais voilà, on a les congés payés. Là, se cultiver, faire du sport, faire ce qu'on a envie est une priorité. Ça n'arrive pas en compensation. La vie quotidienne s'est arrêtée.
Ouais.
Donc, on a du temps à soi. Mmh. Et alors, on peut très bien l'occuper à ne rien faire. Ça, c'est formidable. Ça prend un temps fou, d'ailleurs.
Attends, deux secondes. Tu peux me le refaire, celle-là ? On peut s'occuper à ne rien faire.
Ah bah bien sûr. Ah bah évidemment. Ne faire rien, c'est formidable. On s'assoit, oula, on réfléchit.
Oui, passer le décodeur.
On pense, on dort, on fait rien. Il suffit de regarder les gens en vacances. Il y a des tas de gens qui sont sur des transats qui ne font rien.
C'est alors, là, on est totalement d'accord. Je vais sur la plage, je me fais bronzer pendant 3 heures. Alors là, j'ai
bien compris ça. Et voilà, c'est-à-dire que là, ça devient l'occupation. Ce qui est formidable, c'est l'occupation principale. Alors après, on se trouve devant des imprévus. On ne peut pas dire que le virus, c'est vraiment une chose imprévue. Hein. Donc, il faut organiser sa vie en fonction de ça. Alors là, on se dit, puisque je ne peux pas travailler, puisque je ne peux pas faire ceci, puisque j'ai un restaurant, je ne peux pas l'ouvrir, puisque ceci,
oui,
etc.,
oui,
qu'est-ce que je vais faire ? Je vais occuper mon temps, je vais tuer le temps. Mmh. Alors, on peut très bien faire rien. C'est une occupation, faire rien, je répète. Hein.
Mais je me permets de te rappeler que Raymond DeVos disait que rien, c'est déjà beaucoup.
Oui, c'est mieux que moins que rien.
Ah bah oui.
Non, mais c'est une occupation. On a toujours... Il peut arriver de se dire, j'ai un après-midi formidable. J'ai un après-midi de libre. Ça veut dire quoi ? Un après-midi de libre où je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas envie de faire d'efforts. Je n'ai pas envie de m'atteler à ça. Donc, je fais rien. Je flâne. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis dans la rue, je vais me balader les mains dans les poches, je fais rien. Je flâne. Je vis, quoi.
Mmh. Oui.
Et oui, bien sûr.
Oui, non, mais je profite. Je vais me balader en forêt. Je vais,
oui, tout mais à oui, fait. Mais je suis assis sur le fauteuil et puis je regarde passer les trains, etc. Pour moi, ça, c'est une occupation. Donc, après... en profiter pour faire ce que je n'ai jamais le temps de faire parce que je travaille, parce que je suis pris de 7h du matin jusqu'à 8h. J'ai rien contre, et c'est très bien. Alors l'autre, il dit, je vais relire tout San Antonio. Bonjour, 174 livres, hein, c'est plus qu'un marathon. Hein.
Oui, mais bon,
non, mais,
quand on aime, on ne compte pas.
Oui, non, mais c'est du stakhanovisme. Ça, c'est un peu... Bah oui, non. Moi, alors, par exemple, en ce moment-là, j'ai des lectures forcées. C'est-à-dire, je reçois des manuscrits, je les lis, il y en a qui me barbent, il y en a dont je téléphone aux auteurs, il y a ça ne va pas. À mon avis, il faudrait faire plutôt ceci, etc. C'est toujours intéressant, et d'autant plus qu'il faut remuer des tonnes de terre pour trouver des diamants, mais si on ne remue pas de la terre, on ne trouve pas de diamants. Bon, c'est comme ça. Hein. Mais donc, il faut bosser. Et ça fait... Alors, ce n'est pas un travail très déplaisant. Des fois, ça l'est, mais là, ce n'est pas déplaisant. Et puis, je me dis, tiens, comme j'ai un petit peu de temps, je vais lire un livre que je n'ai pas lu et qu'on m'a toujours recommandé depuis... Ça fait des années qu'on me parle de ce livre.
Voilà.
Et voilà. Alors, oui, ça, très bien. Mais un livre, mais pas... je ne vais pas lire tous les mémoires de Saint-Simon. Franchement, hein. En plus, c'est poussiéreux. Hein.
L'encyclopédie est intéressante aussi. Hein.
Non, mais tu vois bien la différence, mais...
Tout à fait. Non, j'ai compris, oui.
Voilà, c'est pas profiter de ça. La notion de plaisir, elle est où dans cette affaire ? Est-ce que c'est un plaisir de dire, je vais relire les 174 San Antonio ? C'est un plaisir, certainement pour le premier, mais je ne vais pas me forcer à les lire. Si c'est se forcer, non.
Alors, à ce moment-là, j'ai peut-être une deuxième solution. Je vais sur ta page Facebook, Albert Benloulou, je vois la photo d'Antoine Decaune qui tient 2 livres de San Antonio. Le pétomane ne répond pas ou ne répond plus. Et de l'autre côté, il y a... J'arrive pas à lire le de l'autre côté. Parmi les 160, est-ce que j'en choisis un au hasard ? Ça peut être un moment de détente et de côté agréable que de découvrir, si je ne connais pas encore cet univers de San Antonio.
Écoute, San Antonio, c'est comment dire? Il y avait quelqu'un qui dit ça, si ce n'est pas de moi, c'est un pot-au-feu. Voilà, si c'était un plat, c'est un pot-au-feu.
C'est un pot-au-feu,
Un
d'accord.
pot-au-feu. Alors, dans le pot-au-feu, il y a tous les légumes, il y a les carottes, il y a les navets, il y a les poireaux, je sais pas quoi.
Oui, ah
Il y a la
oui.
viande, évidemment. Puis il y en a qui préfèrent ça et d'autres qui préfèrent ça. Vous demandez à quelqu'un quel est son San Antonio préféré, et il vous donnera jamais le même, hein, parce que c'est lié à l'humeur de la personne, à sa personnalité et au moment où on lui pose la question. Donc, on ne peut pas dire simplement. Mais il y a, par exemple, il y a une chose qui est terrible et qui a largement qui a largement participé à la renommée de San Antonio, ce sont les collectionneurs. Il y a des gens qui sont collectionneurs. C'est-à-dire qu'ils collectionnent à la fois tous les San Antonio, mais comme ces San Antonio ont été réédités une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il y en a même certains qui ont été un peu réécrits. Donc il y a une collectionnite aiguë. Il y avait des gens qui ont toute l'œuvre de San Antonio Frédéric Dard et qui en ont lu très peu. Mais il collectionne les livres, cette collection, comme on collectionne des timbres.
D'accord, j'ai compris.
Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il y a un argus, les gens s'échangent, etc. Un auteur qui a commis 300 livres, plus de 300 titres, qui a été réédité environ 400 à 450 fois, traduit dans plein de langues, ça crée nécessairement. Et alors là, vous avez des gens qui parlent. Et ce sont souvent des stakhanovistes de la lecture. Et ils s'en voient ça comme il y en a qui vous voient à litron de vin à table, quoi, voyez. Moi, quand je lis des San Antonio ou des Frédéric Dard, je papillonne. Je vais à la bibliothèque, ah, je dis, tiens, celui-là, je ne l'ai pas lu. Je le sors. Ça arrive une fois par mois, une fois par trimestre, quoi. Mais c'est tout. Mais je ne dis pas. Mais encore une fois, je peux comprendre, hein, c'est pas, mais je dis pas, ça fait pas partie de moi de dire, ah ben j'ai du temps, je sais pas combien de temps va durer ce confinement, je vais lire les 174 San Antonio dans l'ordre chronologique. Allez, c'est parti. C'est une curieuse démarche.
Oui, mais
Mais ça existe.
oui, c'est vrai qu'il y en a, il y en a quand même. Alors, si je te posais la question, c'est que on sait qu'on est en train de fêter aujourd'hui les Feux de l'amour, 47 ans, 12 000 épisodes. Et
Ça,
je veux pas faire de liaison, excuse-moi, hein. Mais si tu veux, quand même, voilà, c'est un truc, 12 000 épisodes. On se dit, si on voulait regarder toute la série, mais il faudrait, je crois, 1 an et demi, d'après les calculs que j'ai faits, 1 an et demi pour réussir à regarder tous les épisodes de Feu de l'amour. C'est vrai que on peut se dire que c'est une manière de s'occuper, c'est une manière aussi de découvrir un autre univers, parce que tout le monde a entendu parler de Frédéric Dard, tout le monde a entendu parler de San Antonio. Est-ce que tout le monde l'a lu?
mais c'est pas ton truc sur les feux de l'amour là. C'est un peu comme l'addiction aux séries, tu comprends?
Bah oui.
Mais bien sûr, je me rends le mot addiction à dessein parce que personnellement, je m'y fais prendre à chaque fois. Je ne veux pas m'amuser à critiquer des gens qui regardent des séries puisque j'en regarde moi-même. Mais j'évite simplement le panurgisme, quoi. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que je me rencarde beaucoup parce que je sais que je vais être pris. Je sais que je vais être pris, mais c'est franchement pas nouveau, ça. C'est franchement pas nouveau. Si je reprends ce qui se passait au 19e siècle avec Alexandre Dumas, ça commence par les Trois Mousquetaires,
Ben oui.
on continue avec 20 ans après, et ça a fini avec le Victor de Bragelonne. Ça doit faire quelque chose comme 6 ou 7 000 pages, hein? Donc c'est simplement, c'est formidable à étudier ça, parce que, par exemple, au 19e siècle, on disait, ça paraissait dans les journaux, fallait faire en sorte que, à la fin du chapitre contenu dans le journal, il y ait suffisamment de suspense, le mot n'existait pas encore, de manière à ce que ça vous encourage à acheter le journal le lendemain.
Eh oui, eh oui.
Donc ça, c'est la même chose. En ce qui concerne San Antonio avec les 174, c'est pas là. Est-ce que chaque livre est un épisode? Est-ce qu'il y a une suite? Non. Il n'y a pas une suite. C'est pas construit comme ça. Là, si on, par exemple, si on prenait Dallas, on s'en souvient de Dallas, hein.
C'est bien, tu as de bons repères, je vois.
Et si on se souvient de Dallas, on voulait tout de suite savoir, etc. Il y avait une continuité,
Tout à
des gens
fait.
qui apparaissaient, des gens qui mouraient, des méchants, des gentils, etc. Et la particularité de Dallas, c'est qu'on n'a jamais trouvé un personnage gentil. Ils étaient tous méchants.
Oui, mais c'était calculé, ça. C'est.
bien sûr. Mais tandis que prendre, si je lis, tout à l'heure, je faisais allusion aux mémoires de Saint-Simon, c'est la même chose. Il y a une continuité. Il y a une continuité chronologique. Frédéric Dard, non, c'est chacun une histoire. C'est un peu comme les Maigret. Vous voyez? On va dire, ah bah tiens, je vais lire tout Maigret. Non, on lit de temps en temps un Maigret. Chaque fois que j'ai une lettre difficile à faire, ça m'arrive, je lis toujours un Maigret. Avant.
Ouais, bah là, moi j'ai pas l'air d'être malin, puisque mon idée c'était de dire dans cette période-là, qu'est-ce qu'il faut, comment on peut s'occuper, qu'est-ce qu'il faut lire. Tu m'as pas donné la réponse là, hein. Là, tu m'as même
Ah
laissé
ben,
dans ces
non,
gros
non,
points
mais non,
d'interrogation.
alors non, si par exemple moi, il y a un livre dont j'ai entendu il m'arrive de relire. Voilà, si j'ai du temps, alors il m'arrive de relire. Et
Ouais.
ben là, en ce moment, puisque tu ne me poses pas la question, mais je vais te donner la réponse puisque tu ne me poses pas la question, qu'est-ce que je relis? Et ben je relis un livre d'Aragon, La Semaine Sainte.
D'accord.
La Semaine Sainte, c'est un livre qui raconte en gros la fuite de Louis XVIII juste avant l'arrivée de Napoléon qui arrive de l'île d'Elbe et qui va mal finir à Waterloo. Et le roi a deux possibilités, ce gros roi, soit de faire face et de faire le coup de poing avec l'arrivée de Napoléon, ou soit de fuir et d'aller en Belgique protégé par les Anglais. Hein? Et donc ça raconte ça, c'est-à-dire... une dérobade, il fuit. Mais en même temps, c'est écrit par un formidable écrivain qui est Aragon et qui était au Parti communiste et qui sortait à ce moment-là, qui commençait à avoir des doutes sur le communisme. Et c'est en fait un livre formidable sur l'engagement politique. Comment on choisit là plutôt que là? Est-ce qu'on décide de rester? Est-ce que le courage, c'est de rester? Ou est-ce que le courage, c'est de partir? Est-ce que le courage, c'est de rester comme Pétain? Ou est-ce que le courage, c'est de partir comme De Gaulle? Bon, et puis, il y a le phénomène du hasard. Alors là, c'est un livre que j'avais de côté et j'ai attendu peut-être 10, 15 ans. Ça fait 15 ans que je l'ai. La première lecture, c'est il y a une quinzaine d'années. Je me suis dit, et comme j'ai appris des choses sur Aragon depuis, et je sais que je vais le relire maintenant, mais c'est comme si je le lisais pour la première fois. Parce que d'abord, j'ai pris 15 ans au passage, hein, et donc je suis plus tout à fait le même. Et la relecture que j'ai n'est pas celle que j'avais. Alors, dans ces temps-là, c'est pareil avec la musique. On se dit, ah, il y a très longtemps que je n'ai pas... écouter Anne-Sophie Mutter au violon. La dernière fois que je l'ai vue, c'était un concert. J'écouterais bien parce que voilà. Mais c'est pas aussi évident. C'est pas programmé quoi. Je programme pas.
D'accord, ça vient naturellement.
C'est de l'improvisation. Voilà.
D'accord, ok.
La Semaine Sainte, c'est parce que je me suis baladé devant mes rayonnages de bibliothèque. Comme j'ai déménagé récemment, j'ai fait un peu le tri dans les livres. Et alors c'est formidable quand on déménage parce qu'on est obligé de s'alléger. Et alors, c'est intéressant avec les livres. Ah non, celui-là, je le garde. Celui-là, je peux m'en séparer. Celui-là, je le garde. La Semaine Sainte, je l'ai gardé. Pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure.
Non, tout à fait. Et puis en plus, il y a une autre inspiration. Bah, je pense à ce qui nous est malheureusement arrivé sur Lyon, puisque Daniel Cordier nous a quittés la
Ah,
semaine dernière. Et là, bah,
alors
c'est tout
ça.
frais, puisqu'on vient d'apprendre il y a quelques minutes que Anne Sylvestre est partie dans un autre univers.
Oui,
Et là,
Anne
c'est vrai que
Sylvestre.
ça, moi, je constate aussi une chose, c'est quand ces gens s'en vont, ça donne aussi envie de découvrir leur histoire. Et là, j'échangeais avec quelqu'un tout à l'heure sur Anne Sylvestre qui me disait, je suis en train de relire ces mots. Je lui dis, mais attends, elle ne faisait pas qu'écrire, elle chantait. Il me dit, mais attends, Alain, je préfère relire parce que les mots, c'est toujours la question, est-ce qu'une chanson, c'est aussi une poésie? Est-ce qu'une poésie peut être faite en chanson? Il y a eu quelques exemples qui ont été faits, mais
Bah,
c'est
la
vrai que
poésie,
bon,
c'est la
on
chanson.
profite aussi parfois de se dire, tiens, il y a
Ouais.
des gens qui passent la main et on en profite pour les regarder. Tu parlais de chanson,
Alors
justement.
ça, c'est si tu veux, c'est vrai que oh, moi, je n'aime pas ce qu'on appelle les. Comment ça s'appelle
Les évocations?
Non, c'est quand quelqu'un vient de mourir, il y a un truc tout près qu'on passe à la télé.
Ah oui, oui, tout à fait, oui. C'est les hommages. Les hommages.
Ça, c'est pas les hommages, non, non. Ça s'appelle une nécrologie.
Oui, mais ça.
Voilà, donc on sait
que. J'utilisais un mot qui était un peu plus diplomate, on va dire.
Non, 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 mais alors, donc, on sait qu'il y a arrivé à un certain âge, il y a des nécros qui sont toutes prêtes.
Oui, oui, oui.
Il y a celle d'Alain Delon qui doit être chauffée, là.
Hein. Oui, bon. Non, oui.
Mais il y a des nécros comme ça. Et alors là, tout le monde. C'est-à-dire que c'est un moment intense, et puis après, c'est oublié.
Ouais.
Quand je vois ce qu'on a fait pour Aznavour, qui maintenant prête sa voix à de la publicité, ouais. C'est vrai que, par exemple, pour Cordier, ça m'a beaucoup ému. Parce que j'avais lu son livre il y a quelques années maintenant, déjà, il y a 3-4 ans, Caracalla.
Mmh.
Hein, et moi, je ne connaissais pas Daniel Cordier. Franchement, je savais qu'il avait un secrétaire, etc. J'ai été, et c'est vraiment quelque chose qui m'a peiné. Là, Anne Sylvestre, c'est pareil. Est-ce que pour autant, je vais chercher dans ma dictionnaire et écouter Anne Sylvestre. Je vais peut-être lire un texte d'elle. Voilà. Mais je pense que ça va me rester longtemps. Et puis, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt comme ça, moi, j'ai peut-être une autre vision. Je me dis, mais qui est-ce qui est né aujourd'hui qui va le remplacer ?
C'est pas bête comme idée.
Oui, je pense toujours aux naissances, chaque fois qu'il y a un décès qui m'attriste.
Mm-hmm.
Il y a très peu de décès qui me réjouissent, il n'y en a même pas. Mais des décès qui m'attristent, oui. Et à chaque fois, je me dis, mais il y a eu des naissances aujourd'hui. Donc, les naissances, c'est un placement pour l'avenir, quoi.
Exactement, à tout départ, il y a une arrivée, à toute arrivée, il y a un départ.
Voilà, et c'est ça, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui... Ça m'attriste, Anne Sylvestre, oh, je me souviens. Alors, c'est un peu... Parce qu'on ramène toujours ça à soi dans les occasions où oui. On a vu, où on a entendu. Mm-hmm. C'est ça aussi. Hein. Et puis, la poésie dans la chanson, c'est presque un pléonasme.
C'est-à-dire ?
Bah, depuis, moi, chaque fois que... Je veux dire, j'ai une petite théorie là-dessus. On dira, il n'y a plus de poésie. La chanson, c'est pas autre chose que ça, hein. Il suffit, moi, quand j'écoute Charles Trenet, c'est très difficile d'être plus poète que Charles Trenet. Hein.
Bah, écoute, ne m'en veux pas, mais c'est vrai que c'est une grande interrogation qu'on a eue la semaine dernière, puisqu'on a bouclé hier soir, on a donné un résultat du concours poésie, qui est le concours qui a été mis en place par Marie Denbest, la petite Marie qui fait de la poésie, qui fait l'émission poétique le samedi à 17h02 sur Direct en jeu, la radio insolite. Et
ouais.
On s'est interrogé la semaine dernière, moi pour moi, comme ce sont des vers, entre guillemets, qui permettent de mettre en musique une chanson, je me suis dit que pour moi, la musique, c'était de la poésie. Et je me suis confronté à des gens qui m'ont dit pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Et là, non. J'avais l'impression soit de parler à des gens qui étaient un peu des esthètes, des érudits, soit de parler à des gens qui disaient non, c'est la chanson, c'est la chanson, la poésie, c'est la poésie. Pas la même chose.
Non, alors là, on peut passer là-dessus des heures. Hein.
Ah, bah, sûr,
y a de la poésie dans la prose, dans les gens qui écrivent, qui ont sens de la description, de la métaphore. La poésie, c'est la métaphore. Voilà, la poésie, c'est la métaphore. Alors, elle existe en toute chose. Mais il est clair que dans la chanson, il faut bien séparer la musique des paroles. La particularité de la poésie, en tout cas dans la chanson, c'est qu'elle s'écrit d'abord. Alors, est-ce que c'est la musique qui est... Est-ce qu'on habille la musique qui existait avant la chanson et on dit « trouve-moi des paroles sur cette musique » ou est-ce qu'on dit « ah, j'ai des paroles, trouve-moi de la musique sur ces paroles ». La démarche n'est pas la même.
Tout à fait.
Et je sais simplement qu'en prenant les grands, j'ai eu l'occasion en son temps d'en parler avec Brassens, par exemple, lui, il avait la double démarche. C'est-à-dire qu'il faisait... D'abord, il avait la musique, ensuite, il habillait la musique avec les paroles, mais il faisait aussi l'inverse.
Oui, tout à fait.
Et il m'avait donné quelques exemples, comme ça, que je n'ai plus en tête. Mais je me souviens, par exemple, que le plus bel exemple, c'est la chanson merveilleuse que chantait aussi très bien Maxime Le Forestier, qui s'appelle « Les Passantes ». Eh ben, « Les Passantes », les paroles ne sont pas de Brassens. Il avait trouvé ça dans une... c'était un poème... Je ne sais plus qui d'ailleurs, qui est connu que pour ces paroles-là. Mm-hmm. Là, la mémoire me fait défaut. Il avait trouvé ça dans une brocante. Mm-hmm. Et donc, il a habillé d'une musique absolument merveilleuse. Et donc, Charles Trenet, c'est la même chose. Prenez un air archi connu comme la mer, vous pouvez le réciter, mais vous pouvez le chanter.
Exactement.
Et ce qu'on peut déplorer, c'est que s'il y a une poésie qui c'est une poésie populaire, c'est-à-dire à la portée de tout le monde, ben c'est, la chanson était très porteuse à l'époque. Elle l'est moins maintenant. On peut le déplorer. Moi, je suis pas du genre à dire c'était mieux avant. Hein. Je dis simplement, elle l'est moins. Voilà. Et ça tient à quoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas expert dans ce domaine pour faire des diagnostics, mais je sais simplement qu'il y a toute une catégorie de chansons, jusque dans les années 2000, où les paroles des chansons, c'était vraiment. Il y avait une métaphore magnifique. C'est moins le cas maintenant.
Mmh.
Il est vrai que je suis moins. Est-ce qu'il y a de la poésie dans le rap? Probablement, oui. Je ne suis pas adepte, ou je n'ai pas tout compris.
Ah,
je ne dis pas que ce n'est pas bien.
Si, mais hein? Si. Tout à fait, complètement.
Voilà, voilà. Mais ça me touche moins. Voilà.
Ouais. Ok, bon, bah, écoute, donc en fait, j'ai quelques réponses quand même sur le fait de me dire comment je fais pour m'occuper, ou bien je ne m'occupe pas et je m'assieds et j'écoute les petits oiseaux gazouiller, je regarde le ciel, je vais me balader dans les forêts. C'est à peu près la réponse que tu m'as donnée sur la question que je me posais. Qu'est-ce que je fais pour combler...
Ah bah oui, demain, par exemple, je sais que je vais marcher. Alors, marcher, c'est pas sortir, c'est marcher. Je sais que j'ai envie de marcher.
Voilà. Marcher, c'est pas sortir, j'ai envie de marcher. Ouais, mais enfin, si tu vas marcher dans ton salon.
Je pourrais.
Oui.
Je pourrais, mais non. C'est-à-dire que je peux très bien dire j'ai envie de sortir. Et moi, je dis pas j'ai envie de sortir. Je dis j'ai envie de marcher. Parce que évidemment, c'est un peu. Je vais sortir aussi. Je vais marcher habillé. Je vais pas marcher à poil.
Ouais. Hein.
Mais voilà. Mais je vais d'abord marcher. D'abord parce que marcher. Alors pendant au-delà d'une heure. Donc je vais marcher pendant 3-4 heures. Et je sais qu'il y a des tas de choses qui vont me passer par la tête. Ah. Voilà. Et je sais que je n'aurai pas... Alors, pour le coup, c'est une façon de parler qu'on n'a pas utilisée. Je sais que je n'aurai pas perdu mon temps.
Mais on est totalement d'accord. Moi, la semaine dernière, j'étais avec Michel Verrier, qui est sculpteur, artisan, qui devait participer au Festival des métiers de montagne à Chambéry, et qui me disait tous les matins, tous les soirs, il a la chance d'être à côté d'un bois. Il me disait, je pars me balader pendant une heure et demie dans la forêt,
ouais.
Parce que je me ressource, je me retrouve dans un autre univers. À un moment, il me faisait rire, il me dit, je prends même le risque de partir sans téléphone, comme ça...
Surtout sans téléphone.
Voilà.
Surtout sans Alors, se ressourcer, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Se ressourcer...
Un retour aux fondamentaux, comme il me disait, pour te dire.
Remonter à la source,
oui.
Alors, moi, ma source, je ne sais pas où elle est. Hein. Je sais simplement que je suis bien. Voilà. Je suis bien. Alors, pas dérangé, je marche. Il y a le hasard qui peut, y a un animal qui passe, un bruit qui me fait penser à ça, ça me fait réfléchir à ça. J'ai pas d'ordre dans mes pensées, je me balade dans les mains dans les poches crevées, comme disait l'autre. Voilà, c'est ça. Il pleut, il fait pas beau, je m'en fous. Voilà.
C'est le fait de se dire, je me retrouve avec moi-même.
Oui, bah d'abord parce qu'on se fréquente depuis longtemps.
Bah oui.
Il vaut mieux s'entendre avec soi. Mais des fois, ça ne marche pas si bien que ça. Des fois, on ne s'entend pas avec soi. Et donc, ça peut, on règle ses comptes. Là. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Mais on ne tue pas le temps. Quoi. Le temps n'est pas fait pour être tué. Parce qu'un jour, c'est lui qui nous tue. Hein.
Je voulais te remercier de m'avoir pris, m'avoir donné ces quelques minutes pour échanger encore. C'est vrai qu'on est toujours dans cette notion de réflexion sur comment faire, comment s'occuper, comment faire pour garder le moral, c'est le plus important. Et puis, voilà quoi. Ok. Merci à toi.
Bye bye. Salut. Il avait lu le mémorial de Sainte-Hélène de Lascaz sur la vie de Napoléon, et il a fait ce film qui s'appelle Monsieur N. Qui n'a pas été un succès commercial, je crois même qu'il y a, mais qui est un film absolument formidable sur Napoléon à Sainte-Hélène. C'est quand même curieux, un type qui s'occupe, qui est un fanat de rock, qui est un fanat de déconnes bien pensantes, comme on dit, et qui en même temps était intéressé, passionné par la vie de Napoléon et qui a fait ce film, qui est une merveille, qui s'appelle Monsieur N, qui était une sorte d'évasion de l'île de Sainte-Hélène. Voilà pourquoi j'aime Antoine de Caunes.
D'accord. Mais moi, c'est vrai qu'avec le commentaire de Jacques Le Piton, j'ai découvert qu'il était écrivain. Et puis, j'ai bien aimé quand il est cité à 10 reprises dans nos San Antonio. Je me suis dit, mais quand même, Antoine de Caunes cité dans les San Antonio. Et j'ai fait la liaison.
Oui, il y avait une petite faute sur le lien. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. En fait, il y a deux San Antonio qui lui sont dédiés, non pas dédicacés.
Ah, carrément.
Ah oui, oui, oui. On n'est pas beaucoup à voir. Frédéric, en général, dédiait. C'est San Antonio à des amis et on est très peu à avoir deux San Antonio. Il y a lui et moi. Voilà encore ce qui nous rassemble. Moi, j'en ai deux et lui, il en a deux aussi. Et Frédéric adorait Antoine de Caunes.
Mais pourquoi ? Parce qu'il était un peu coquin, ou il était décalé, ou il était dans le parler vrai ?
Mais c'est simplement parce qu'il était intelligent.
Bonjour. La réponse.
Parce qu'il était intelligent avec, non pas avec la culture, encore qu'il en a, mais il était intelligent avec le cœur. La véritable intelligence, elle passe par le cœur, elle passe pas par la culture, hein. Et oui. Et donc on sentait qu'il y avait, on sent que chez cet homme-là, il a un cœur gros comme ça. Il a fait ses frasques ô combien talentueuses sur Canal+, tout le monde se souvient de ça. Avec Gildas.
C'est d'anthologie.
Mais bien sûr que c'est d'anthologie, mais il faut de l'imagination, et il faut du talent, et il faut du cœur pour faire ça. Et là, il a une jeunesse éternelle. Il a beaucoup hérité de ses parents, de son père, qui était... Georges de Caunes, personne ne s'en souvient parce que c'est la génération
d'avant. Je t'en remercie, mais moi je m'en souviens, il n'y a pas de problème.
Oui, quand même, aller vivre à cette époque-là, dans les années 60, sur une île déserte avec son chien, dont je n'ai pas oublié le nom, qui s'appelait Eder, et puis sa mère de speakerine, Jacqueline Joubert, qui était belle comme le jour. Enfin, il est né sur d'extraordinaires fonds baptismaux, Antoine de Caunes. Et alors, c'est vrai qu'il a, il a un côté touche-à-tout, et pour autant, il n'est pas spécialiste d'un genre. On peut dire qu'il n'a pas vraiment réussi dans le cinéma, on peut dire qu'il a réussi à la télévision, mais enfin, réussir à la télévision, c'est porter les œuvres des autres. Hein. En tant qu'écrivain, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas extraordinaire, hein. Et puis je crois qu'il le sait. Et en fait, il est bourré de talent. On a toujours l'impression que, comment dire, de chenille, il va passer à papillon, mais on ne sait pas quand. Voilà pour Antoine de Caunes. Alors, chaque fois qu'il s'agit d'Antoine de Caunes, j'amène ma petite pierre. Et encore, j'ajoute qu'on a échangé juste une seule phrase.
Oui, mais c'est pas... quantité n'a jamais rimé avec qualité, comme j'ai l'habitude de dire.
Oui, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, que je connais. Sans l'avoir vu, quoi, ou très peu. Je l'ai croisé. Il ne m'intimide pas, je dois pas. Moi, il me connaissait parce que j'étais le mari de la libraire. Voilà, c'est tout. Hein. Et puis, je n'ai jamais couru après. Et puis, lui, l'inverse non plus. Chaque fois qu'il parle de Frédéric Dard, ça fait du bien, quoi. Parce qu'il en parle très bien, il a tout compris.
Ouais. Il a pu s'en inspirer aussi sur tout ce qu'il a fait, je suppose.
C'est peut-être pas le seul, mais en tout cas, il y a dans tout ce qu'il fait, il y a du Frédéric Dard. Je le sens, voilà, parce qu'il y a du cœur, tout simplement.
Ouais, non, mais tout à fait.
Bon, voilà.
Bon, t'es prêt? On y va?
Je croyais que c'était commencé, moi.
Ah, moi, j'ai pas osé commencer à enregistrer, quand même. Ça se fait pas.
Alors, vas-y, je t'écoute. Parfait. Vas-y. Alors, il est possible, il n'est pas certain que je sois dérangé par un coup de sonnette parce que j'attends une livraison cet après-midi.
Mais il n'y a pas de problème.
Si ça rentre dans la boîte aux lettres, ils ne me dérangeront pas.
Mais il n'y a pas de souci. Allez. 3, 2, 1. Directons jeu de Radio Insolite. Bonjour à tous et bienvenue dans ces périodes où nous venons de rentrer en direction du 25... Ah non, mais le 25 décembre, c'est vrai que le Père Noël n'a pas le droit de venir. Bonjour Albert.
Bonjour.
Dis-moi Albert, est-ce que tu as l'habitude de fêter en famille les fins d'année?
Oui. C'est jamais tout à fait complet. Il n'y a jamais tous les gens qu'on espère.
Ouais.
Mais en général, oui. Oui,
Et est-ce
oui.
que
Alors
tu as
cette année, c'est
décidé
difficile.
là où tu te mettrais?
À table ou ailleurs?
Non. Tu as le choix, soit tu vas à la cuisine, soit tu vas dans la cave, soit tu vas dans la voiture, soit vous êtes tous à table.
Non, il est préférable que je
Le
sois pas dans
petit
la
côté clin
cuisine.
d'œil humoristique pour démarrer.
Non, il est préférable que je sois pas dans la cuisine. C'est pas que je sais pas cuisiner. D'abord parce que je suis paresseux, et puis en même temps je laisse un bazar terrible. J'effraie tout le monde quand je suis dans la cuisine, et on a l'impression que c'est un maelstrom qui est passé. Donc dans la cuisine, non. Non, j'essaie simplement de veiller un peu au bien-être de chacun ou de chacune, de discuter parce qu'il y a des gens qu'on a, des enfants qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et puis ça dépend le nombre de jours qui restent, et puis en même temps il faut faire attention aux susceptibilités. Bref, comme toutes les réunions de famille, c'est vraiment pas original. Mais c'est un plaisir.
Monsieur Albert Benloulouf, bienvenue à vous sur Dire est en jeu. Enfin, merci à nouveau de se retrouver. Tu as été l'un de ceux que j'ai eu le plaisir d'accueillir durant l'été sur les quartiers d'été à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Et là, eh ben, j'ai découvert que tu avais un point commun avec quelqu'un d'un peu connu, un dénommé Antoine de Caunes. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, ce nom-là.
Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que je le sens proche. Alors, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé juste une ou deux phrases, mais on a toujours été, comment dire, comme des rails de chemin de fer, quoi. On est parallèles, on se rejoint jamais. Et c'est très bien qu'on se rejoint jamais, parce que si les rails se rejoignent, le train déraille, quoi. Hein? Et non, on s'est vu. Ma femme était libraire à Paris, avenue de Suffren. Il habitait avenue de Suffren. Moi, je travaillais chez Fayard. J'étais déjà l'agent de Frédéric Dard. Et puis, un jour, un mauvais jour, j'ai appris la mort de Frédéric. Et en traversant le Champ de Mars, et j'étais triste comme un saule pleureur. Et j'ai croisé un type sur un banc qui pleurait aussi. Et c'était Antoine de Caunes. Et on s'est regardé. Il m'a reconnu. Il savait qui j'étais. Et évidemment, je vois. Et il m'a dit, quelle putain de journée. Il adorait Frédéric. Il adorait Frédéric. Je crois même qu'il a dit quelque part, j'ai plus pleuré le jour de la mort de Frédéric que le jour de la mort de mon père. C'est dire. Voilà. C'est quelqu'un qui est bourré de talent, et qui a qui a une culture à la fois de choses modernes et de choses passées étonnantes. Il a fait un film sur Napoléon à Sainte-Hélène, donc personne ne s'attendait qu'Antoine de Caunes fasse ça. Simplement, je crois que c'est après avoir été passionné par la lecture du mémorial de Sainte-Hélène. Il a fait des facéties sur Canal+, avec Gildas et son compère, dont
José
j'ai plus le
Garcia.
nom, José Garcia, qui restent des morceaux d'anthologie qui sont vus
Énorme.
énormes. Et tout ça, parce que c'est quelqu'un qui a. Il a été élevé à la bonne mamelle, hein. Georges de Caunes, c'était pas rien, un peu frappé aussi, mais dans le bon sens. Et puis l'immense talent.
C'était le début de la télévision, si je puis me permettre.
Oui, mais il n'y avait pas que des gens comme ça.
Oui.
Il y a toujours, à tous les moments, quand on parle du passé comme ça, il y avait des gens très talentueux, très inventifs, puis il y avait aussi des pisse-froids. Hein voilà. Hein mais de Caunes, c'était une sorte de poète du moment, quoi. En plus, il était beau, il présentait bien, mais. C'était un aventurier. Aller dans les années 60 sur une île déserte avec son chien, alors que personne ne lui demandait rien, c'était pas l'époque des aventuriers, c'était quand même pas banal, quoi.
Tu parlais de sa maman.
Pardon?
Tu parlais de sa maman.
Oh oui, sa maman, moi j'étais ado, alors on regardait la télé, il n'y avait pas 50 chaînes,
Et non.
il y avait Catherine Langer qui faisait la cuisine avec je ne sais plus qui. Et puis, il y avait Jacqueline Joubert. C'était des femmes belles, pas des belles femmes, des femmes belles. Voilà. On voyait la speakerine, elle nous annonçait le programme à venir. Alors après, elles ont fait des émissions, etc. Mais c'était des dames qu'on aimait bien. Elles faisaient la liaison entre la pièce où on se trouvait et le monde de la télévision. Bon, c'est ancien. Je ne dis pas que c'était bien, je ne dis pas que c'est moins bien maintenant, je dis que c'était quelque chose qu'on aimait bien.
Oh bah
Voilà. Tout le monde adorait les speakerines.
Je parlais au début du point commun que tu avais avec Antoine de Caunes. En fait, Frédéric Dard vous a les deux mis en valeur.
Pas pour les mêmes raisons. Je crois d'abord qu'Antoine de Caunes, il a été connu par Frédéric avant que moi, avant qu'on se connaisse. Donc, il avait. Il sentait en Antoine, il me l'a dit d'ailleurs, il sentait en Antoine de Gaulle des dispositions presque de fils adoptif. Il y avait, c'était Frédéric Dard jeune. Il sentait. Alors, il s'est jamais vraiment bien exprimé, sauf ce film magnifique qu'il a fait, je crois qu'il n'a pas été une réussite commerciale, qui s'appelait Monsieur N. Il a commis quelques livres, au Fleuve Noir d'ailleurs. Qui sont pas mauvais, mais qui sont pas géniaux, et puis sans doute qui n'auraient pas été édités si c'était pas Antoine de Caunes qui les avait signés, ça c'est possible, hein. Mais il y avait un jour, Frédéric m'avait dit, un jour ce type il va exploser, parce qu'il y a tellement de choses en lui. Alors c'est pour ça qu'il est toujours jeune, Antoine de Caunes, je sais pas si vous avez remarqué, c'est pas le genre à présenter les actualités du passé, hein. Il a une culture phénoménal dans plein de domaines. Et puis j'ajouterais que ce qui allait avec Frédéric, c'est qu'il a cette culture du cœur, quoi. On sent que c'est quelqu'un qui a du cœur. Et puis il a sa vie personnelle, il est injoignable, voilà. C'est, en fait, c'est quelqu'un que je connais assez peu. Je le connais parce que je l'ai lu, parce que j'ai entendu parler de lui et parce que j'ai vu dans ce qu'il a fait. Et Antoine de Caunes, c'est quelqu'un que j'aime bien, voilà. Non pas que j'aime bien, mais que j'aime beaucoup. Voilà.
Alors justement, moi, si j'ai souhaité avoir cet échange avec toi, c'est parce que dans le contexte actuel, je me dis, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'écouter de la musique ou de lire des livres? Et alors, moi, Thierry, qui est à côté de Saint-Étienne, m'a dit, je profite de ce confinement, entre guillemets, pour me refaire toute la collection de tous les Saint-Antonio. Est-ce que c'est ça, ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on peut se refaire plaisir si on les a déjà lus ou découvrir cet univers?
C'est ambigu, cette question, parce que soit on est dans l'impossibilité de travailler ou de faire ce que l'on fait habituellement. Voilà. Et donc, on fait par compensation. Et quand on fait quelque chose par compensation, on a juste une chance, c'est le hasard. Quand on fait quelque chose, ça veut dire que si les choses reprenaient leur vie le lendemain matin, on cesserait de le faire. Si on a décidé de lire tout Balzac, j'ai jamais lu Balzac, je vais lire tout Balzac. Je vais relire tout Saint-Antonio. Et puis si demain on vous annonce que le boulot reprend, etc., on arrête. Je crois pas que c'est cultivé, ce soit ça. On peut boucher les trous. On peut. Alors il y a une phrase que je déteste, c'est tuer le temps. Alors, il y a plusieurs manières de tuer le temps. C'est terrible de tuer le temps. Franchement, on n'en a pas beaucoup. Temps, à une heure de sa mort, on voudra additionner le nombre de fois où on a mis la clé dans une serrure sur toute sa vie pour l'avoir en plus. Et donc, on ne saurait tuer le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse toujours des choses primordiales et pas accessoires. Donc, si c'est pour remplacer le quotidien, écouter de la musique, lire, peindre, que sais-je encore,
s'occuper
parce qu'on peut pas faire autrement.
Oui.
Ça arrive en compensation tout de l'essentiel. Et donc c'est pas toujours un compliment qu'on fait.
D'accord. Ça veut dire que c'est pas une démarche active, c'est un trou, quoi.
Non, moi si je décide de relire Saint-Antonio, ça veut dire que ça devient une priorité, quoi. Faut pas m'emmerder si j'ai dit ça. Non, faut pas de téléphone, pas de télévision, pas de machin, et je m'occupe de ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand on essaie de tuer le temps ou d'occuper, c'est ce qu'on appelle de la curiosité au rabais. C'est dur ce que je dis, mais je le pense.
Ah, mais c'est peut-être pas l'occasion justement d'aller découvrir des choses que j'ai jamais pris le temps d'aller découvrir.
C'est l'occasion. Il y a un double sens dans l'occasion.
Je vais arrêter de parler, moi. Non, mais si, parce qu'à un moment donné, si tu veux, en ayant ce temps, entre guillemets, de disponible, ça me permet de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire.
Regarde, par exemple, lorsqu'on travaille et qu'on a ce qu'on appelle cette chose merveilleuse qu'on a en France, qui s'appelle des congés payés.
J'achète des mots fléchés et je prends les livres de la bibliothèque rose.
Non, mais voilà, on a les congés payés. Là, se cultiver, faire du sport, faire ce qu'on a envie, est une priorité. Ça n'arrive pas en compensation. La vie quotidienne s'est arrêtée,
ouais.
Donc on a du temps à soi, et alors on peut très bien l'occuper à ne rien faire. Ça, c'est formidable, ça prend un temps fou.
D'ailleurs. Attends, deux secondes, tu peux me le refaire, celle-là ? On peut s'occuper à ne rien faire.
Ah ben bien sûr, ah ben, évidemment, ne faire rien, c'est formidable. On s'assoit, oula, on réfléchit.
Où est passé le décodeur ?
On pense, on dort, on fait rien. Il suffit de regarder les gens en vacances. Il y a des tas de gens qui sont sur des transats qui ne font rien.
Ah ben c'est drôle. Alors là, on est totalement d'accord. Je vais sur la plage, je me fais bronzer pendant 3 heures. Alors là, j'ai
bien compris ça. Et voilà, c'est-à-dire que là, ça devient l'occupation. Ce qui est formidable, c'est l'occupation principale. Alors après, on se trouve devant des imprévus. On ne peut pas dire que le virus, c'est vraiment une chose imprévue. Hein. Donc, il faut organiser sa vie en fonction de ça. Alors là, on se dit, puisque je ne peux pas travailler, puisque je ne peux pas faire ceci, puisque j'ai un restaurant, je ne peux pas l'ouvrir, puisque ceci,
oui,
etc.,
oui,
qu'est-ce que je vais faire ? Je vais occuper mon temps, je vais tuer le temps. Alors, on peut très bien faire rien. C'est une occupation, faire rien, je répète. Hein.
Mais je me permets de te rappeler que Raymond DeVos disait que rien, c'est déjà beaucoup.
Oui, c'est mieux que moins que rien.
Ah bah oui.
Non, mais c'est une occupation. On a toujours. Il peut arriver de se dire j'ai un après-midi formidable. J'ai un après-midi de libre. Ça veut dire quoi ? Un après-midi de libre où je peux faire ce que je veux. J'ai pas envie de faire d'efforts. J'ai pas envie de m'atteler à ça. Donc je fais rien. Je flâne. C'est-à-dire que si par exemple je suis dans la rue, je vais me balader les mains dans les poches, je fais rien. Je flâne. Je vis quoi ?
Oui.
Et oui, bien sûr.
Oui, non, non, mais je profite, je vais me balader en forêt, je vais.
Oui, tout mais à oui, fait. Mais je suis assis sur le fauteuil et puis je regarde passer les trains, ou je pars, etc. Pour moi, ça, c'est une occupation. Donc, après, en profiter pour faire ce que je n'ai jamais le temps de faire parce que je travaille, parce que je suis pris de 7h du matin jusqu'à 8h. J'ai rien contre, et c'est très bien. Alors, l'autre, il dit, je vais relire tout San Antonio. Bonjour, 174 livres, hein, c'est plus qu'un marathon. Hein.
Oui, mais bon,
non, mais,
quand on aime, on ne compte pas.
Oui, non, mais c'est du stakhanovisme. Ça, c'est un peu, oui, non. Moi, alors, par exemple, en ce moment-là, j'ai des lectures forcées, c'est-à-dire je reçois des manuscrits, je les lis, il y en a qui me barbent, il y en a dont je téléphone aux auteurs, il y a ça va pas, à mon avis, il faudrait faire plutôt ceci, etc. C'est toujours intéressant, et d'autant plus qu'il faut remuer des tonnes de terre pour trouver des diamants, mais si on ne remue pas de la terre, on ne trouve pas de diamants. Bon, c'est comme ça. Hein. Mais donc, il faut bosser. Et ça fait... Alors, ce n'est pas un travail déplaisant, des fois ça l'est, mais là, ce n'est pas déplaisant. Et puis, je me dis, tiens, comme j'ai un petit peu de temps, je vais lire un livre que je n'ai pas lu et qu'on m'a toujours recommandé depuis. Ça fait des années qu'on me parle de ce livre.
Voilà.
Et voilà. Alors, oui, ça, très bien. Mais un livre, mais pas. Comprenez, je ne vais pas lire tous les mémoires de Saint-Simon. Enfin, franchement, hein. En plus, c'est poussiéreux. Hein.
L'encyclopédie est intéressante aussi. Hein.
Non, mais tu vois bien la différence. Mais,
tout à fait. Non, j'ai compris, oui.
Voilà, c'est pas profiter de ça. La notion de plaisir, elle est où dans cette affaire ? Est-ce que c'est un plaisir de dire, je vais relire les 174 San Antonio ? C'est un plaisir, certainement pour un premier, mais je ne vais pas me forcer à les lire. Si c'est se forcer, non.
Alors, à ce moment-là, j'ai peut-être une deuxième solution. Je vais sur ta page Facebook, Albert Benloulou, je vois la photo d'Antoine de Caunes qui tient 2 livres de San Antonio. Le pétomane ne répond pas ou ne répond plus. Et de l'autre côté, il y a « mais… » J'arrive pas à lire le de l'autre côté. Parmi les 160, est-ce que j'en choisis un au hasard ? Ça peut être un moment de détente et de côté agréable que de découvrir, si je ne connais pas encore, cet univers de San Antonio.
Écoute, San Antonio, c'est comment dire ? Il y avait quelqu'un qui dit ça, c'est pas de moi, je crois. C'est un pot-au-feu. Voilà, si c'était un plat, c'est un pot-au-feu.
C'est un pot-au-feu,
Un
d'accord.
pot-au-feu. Alors, dans le pot-au-feu, il y a tous les légumes, il y a les carottes, il y a les navets, il y a les poireaux, je sais pas quoi,
Oui, ah
il y a la
oui.
viande, évidemment. Puis il y en a qui préfèrent ça et d'autres qui préfèrent ça. Vous demandez à quelqu'un quel est son San Antonio préféré, et il ne vous donnera jamais le même, hein, parce que c'est lié à l'humeur de la personne, à sa personnalité et au moment où on lui pose la question. Donc on ne peut pas dire simplement. Mais il y a, par exemple, il y a une chose qui est terrible et qui a largement participé à la renommée de San Antonio, ce sont les collectionneurs. Alors, il y a des gens qui sont collectionneurs. C'est-à-dire qu'ils collectionnent à la fois tous les San Antonio, mais comme ces San Antonio ont été réédités une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il y en a même certains qui ont été un peu réécrits. Donc il y a une collectionnite aiguë. Vous avez des gens qui ont toute l'œuvre de San Antonio Frédéric Dard et qui en ont lu très peu. Mais ils collectionnent les livres, cette collectionnite, comme on collectionne les timbres.
D'accord, j'ai compris.
Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il y a un argus, les gens s'échangent, etc. Un auteur qui a commis 300 livres, plus de 300 titres, qui a été réédité environ 400 à 450 fois, traduit dans plein de langues, ça crée nécessairement. Et alors là, vous avez des gens qui parlent, et ce sont souvent des stakhanovistes de la lecture. Et ils s'envoient ça comme il y en a qui vous voient à litron de vin à table, quoi, voyez. Moi, quand je lis des San Antonio ou des Frédéric Dard, je papillonne. Je vais à la bibliothèque, ah, je dis, tiens, celui-là, je ne l'ai pas lu. Je le sors. Ça arrive une fois par mois, une fois par trimestre, quoi. Mais c'est tout. Mais je ne dis pas, mais encore une fois, je peux comprendre, hein, c'est pas, mais je ne dis pas, ça ne fait pas partie de moi de dire, ah ben j'ai du temps, je ne sais pas combien de temps va durer ce confinement, je vais lire les 174 San Antonio dans l'ordre chronologique. Allez, alors, c'est parti. C'est une curieuse démarche.
Oui, mais
Mais ça existe.
oui, c'est vrai qu'il y en a, hein, il y en a quand même. Alors, si je te posais la question, c'est que bon, on sait qu'on est en train de fêter aujourd'hui les Feux de l'amour, 47 ans, 12 000 épisodes. Et
Ça,
je veux pas faire de liaison, excuse-moi, hein, mais si tu veux quand même, voilà, c'est un truc, voilà, 12 000 épisodes. On se dit, si on voulait regarder toute la série, mais il faudrait, je crois, un an et demi, d'après les calculs que j'ai faits, un an et demi pour réussir à regarder tous les épisodes de Feu de l'amour. C'est vrai que on peut se dire que c'est une manière de s'occuper, c'est une manière aussi de découvrir un autre univers, parce que tout le monde a entendu parler de Frédéric Dard, tout le monde a entendu parler de San Antonio. Est-ce que tout le monde l'a lu?
mais c'est pas ton truc sur les feux de l'amour là. C'est un peu comme l'addiction aux séries, tu comprends?
Bah oui.
Mais bien sûr, je prends le mot addiction à dessein parce que personnellement, je m'y fais prendre à chaque fois. Je ne veux pas m'amuser à critiquer des gens qui regardent des séries puisque j'en regarde moi-même. Mais j'évite simplement le panurgisme, quoi, hein. C'est-à-dire
Oui.
que je me rencarde beaucoup parce que je sais que je vais être pris. Je sais que je vais être pris, mais c'est franchement pas nouveau, ça. C'est franchement pas nouveau. Si je reprends ce qui se passait au 19e siècle avec Alexandre Dumas, ça commence par les Trois Mousquetaires,
Ben oui.
on continue avec 20 ans après, et ça finit avec le Vicomte de Bragelonne. Ça doit faire quelque chose comme 6 ou 7 000 pages, hein? Donc c'est simplement, c'est formidable à étudier ça, parce que, par exemple, au 19e siècle, on disait, ça paraissait dans les journaux, fallait faire en sorte que, à la fin du chapitre contenu dans le journal, il y ait suffisamment de suspense, le mot n'existait pas encore, de manière à ce que ça vous encourage à acheter le journal le lendemain. On
Eh
arrête
oui,
là-dessus.
eh oui.
Donc ça, c'est la même chose. En ce qui concerne San Antonio avec les 174, c'est pas là, est-ce que chaque livre est un épisode? Est-ce qu'il y a une suite? Non. Il n'y a pas une suite. C'est pas construit comme ça. Et là, par exemple, si on prenait Dallas, on s'en souvient de Dallas, hein.
C'est bien, tu as de bons repères, je vois.
Et si on se souvient de Dallas, on voulait tout de suite savoir, etc. Il y avait une continuité.
Tout
Des
à
gens
fait.
qui apparaissaient, des gens qui mouraient, des méchants, des gentils, etc. La particularité de Dallas, c'est qu'on n'a jamais trouvé un personnage gentil. Ils étaient tous méchants.
Oui, mais c'était calculé, ça. C'est...
bien sûr, bien sûr. Mais tandis que prendre... si je lis... Tout à l'heure, je faisais allusion aux mémoires de Saint-Simon. C'est la même chose. Il y a une continuité. Mm-hmm. Il y a une continuité chronologique. Mm-hmm. Frédéric Dard, non, c'est chacun une histoire. C'est un peu comme les Maigret. Vous voyez ?
Oui.
On va dire, ah bah tiens, je vais lire tout Maigret. Non, on lit de temps en temps un Maigret. Chaque fois que j'ai une lettre difficile à faire, ça m'arrive, je lis toujours un Maigret. Avant.
Ouais, bah là, moi, j'ai pas l'air d'être malin, puisque mon idée, c'était de dire, dans cette période-là, qu'est-ce qu'il faut, comment on peut s'occuper, qu'est-ce qu'il faut lire. Tu m'as pas donné la réponse, là. Hein. Là, tu m'as même laissé dans ces gros points d'interrogation.
Non, alors, non, si, par exemple, moi, il y a un livre dont j'ai entendu que je, il m'arrive de relire. Voilà, si j'ai du temps, alors il m'arrive de relire. Ouais. Et ben, là, en ce moment, puisque tu me poses pas la question, mais je vais te donner la réponse, puisque tu me poses pas la question. Qu'est-ce que je relis ? Eh ben, je relis un livre d'Aragon, La Semaine Sainte.
D'accord.
La Semaine Sainte, c'est un livre qui raconte en gros la fuite de Louis XVIII juste avant l'arrivée de Napoléon qui arrive de l'île d'Elbe et qui va mal finir à Waterloo. Et le roi a deux possibilités, ce gros roi, soit de faire face et de faire le coup de poing avec l'arrivée de Napoléon, ou soit de fuir et d'aller en Belgique protégé par les Anglais. Hein ? Et donc ça raconte ça, c'est-à-dire... une dérobade, il fuit. Mais en même temps, c'est écrit par un formidable écrivain qui est Aragon, uh-huh. et qui était au Parti communiste, et qui sortait à ce moment-là, qui commençait à avoir des doutes sur le communisme, et c'est en fait un livre formidable sur l'engagement politique. Uh-huh. Comment on choisit là plutôt que là ? Est-ce qu'on décide de rester ? Est-ce que le courage, c'est de rester ? Ou est-ce que le courage, c'est de partir ? Est-ce que le courage, c'est de rester comme Pétain ? Ou est-ce que le courage, c'est de partir comme De Gaulle ? Bon, et puis, il y a le phénomène du hasard. Mmh. Alors là, c'est un livre que j'avais de côté et j'ai attendu peut-être 10, 15 ans. Ça fait 15 ans que je l'ai. La première lecture, c'est il y a une quinzaine d'années. Je me suis dit, et comme j'ai appris des choses sur Aragon depuis, mmh. et je sais que je vais le relire maintenant, mais c'est comme si je le lisais pour la première fois. Parce que d'abord, j'ai pris 15 ans au passage, hein, et donc je ne suis plus tout à fait le même. Mmh. Et la relecture que j'ai n'est pas celle que j'avais. Alors, dans ces temps-là, c'est pareil avec la musique. On se dit, ah, il y a très longtemps que je n'ai pas... écouter Anne-Sophie Mutter au violon. La dernière fois que je l'ai vue, c'était un concert. J'écouterais bien parce que voilà. Mais c'est pas aussi évident. C'est pas programmé quoi. Je programme pas.
D'accord. Ça vient naturellement.
C'est de l'improvisation. Voilà.
D'accord. Ok.
La Semaine Sainte, c'est parce que je me suis baladé devant mes rayonnages de bibliothèque. Comme j'ai déménagé récemment, j'ai fait un peu le tri dans les livres. Et alors c'est formidable quand on déménage parce qu'on est obligé de s'alléger. Et alors, c'est intéressant avec les livres. Ah non, celui-là, je le garde. Celui-là, je peux m'en séparer. Celui-là, je le garde. La Semaine Sainte, je l'ai gardé. Mmh. Pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure.
Mmh. Non, tout à fait. Et puis, en plus, il y a une autre inspiration. Moi, je pense à ce qui nous est malheureusement arrivé sur Lyon, puisque Daniel Cordier nous a quittés la semaine dernière.
Alors ça.
Et là, c'est ça. Tout frais, puisqu'on vient d'apprendre il y a quelques minutes que Anne Sylvestre est partie dans un autre univers.
Oui.
Et là, c'est vrai que ça, moi, je constate aussi une chose, c'est quand ces gens s'en vont, ça donne aussi envie de découvrir leur histoire. Et là, j'ai échangé avec quelqu'un tout à l'heure sur Anne Sylvestre qui me disait, je suis en train de relire ces mots. Je lui dis, mais attends, elle ne faisait pas qu'écrire, elle chantait. Il me dit, mais attends, Alain, je préfère relire parce que les mots, c'est toujours la question, est-ce qu'une chanson, c'est aussi une poésie ? Est-ce qu'une poésie peut être faite en chanson ? Il y a eu quelques exemples qui ont été faits, mais c'est vrai
qu'on
profite aussi parfois de se dire, tiens, il y a des gens qui passent la main et on en profite pour aller regarder. Tu parlais de chanson, justement.
Alors ça, c'est, si tu veux, c'est vrai que moi, je n'aime pas ce qu'on appelle les... Comment ça s'appelle ces...
Les évocations
Non, c'est quand quelqu'un vient de mourir, il y a un truc tout près qu'on passe à la télé.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Les hommages.
Ce n'est pas les hommages, non. Ça s'appelle une nécrologie.
Oui, bah ça...
Voilà, donc on sait
J'utilisais
que par
un
exemple.
mot qui était un peu plus diplomate, on va dire.
Non, mais alors, donc, on sait qu'arrivé à un certain âge, il y a des nécros qui sont toutes prêtes.
Oui.
Hein, il y a celle d'Alain Delon qui doit te chauffer, là. Hein.
Oui, bon.
Mais il y a des nécros comme ça. Et alors là, tout le monde. C'est-à-dire que c'est un moment intense, et puis après, c'est oublié.
Ouais.
Quand je vois ce qu'on a fait pour Aznavour, qui maintenant prête sa voix à de la publicité, ouais. C'est vrai que par exemple, pour Cordier, ça m'a beaucoup ému. Parce que j'avais lu son livre il y a quelques années maintenant, déjà, il y a 3-4 ans, Caracalla.
Mmh.
Hein, et moi, je ne connaissais pas Daniel Cordier. Franchement, je savais qu'il y avait un secrétaire, etc. Mais j'ai été. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a peiné. Là, Anne Sylvestre, c'est pareil. Est-ce que pour autant, je vais chercher dans ma dictionnaire et écouter Anne Sylvestre ? Je vais peut-être lire un texte d'elle. Voilà. Mais je pense que ça va me rester longtemps. Et puis, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt comme ça, moi, j'ai peut-être une autre vision. Je me dis, mais qui est-ce qui est né aujourd'hui qui va le remplacer ?
C'est pas bête comme idée.
Oui, je pense toujours aux naissances, chaque fois qu'il y a il y a un décès qui m'attriste.
Mm-hmm.
Il y a très peu de décès qui me réjouissent, il n'y en a même pas. Mais des décès qui m'attristent, oui. Et à chaque fois, je me dis, mais il y a eu des naissances aujourd'hui. Donc, les naissances, c'est un placement pour l'avenir, quoi.
Exactement, à tout départ, il y a une arrivée, à toute arrivée, il y a un départ.
Voilà, et c'est ça, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui... Ça m'attriste, Anne Sylvestre, je me souviens. Alors, c'est un peu... Parce qu'on ramène toujours ça à soi dans les occasions où on a vu, où on a entendu. Mm-hmm. C'est ça aussi. Hein. Et puis, la poésie dans la chanson, c'est presque un pléonasme.
C'est-à-dire ?
Moi, chaque fois que... Je veux dire, j'ai une petite théorie là-dessus. On dira, il n'y a plus de poésie. La chanson, ce n'est pas autre chose que ça, hein. Il suffit, moi, quand j'écoute Charles Trenet, c'est très difficile d'être plus poète que Charles Trenet. Hein.
Bah, écoute, ne m'en veux pas, mais c'est vrai que c'est une grande interrogation qu'on a eue la semaine dernière, puisqu'on a bouclé hier soir, on a donné un résultat du concours poésie, qui est le concours qui a été mis en place par Marie Denbest, la petite Marie qui fait de la poésie, qui fait l'émission poétique le samedi à 17h02 sur Direct Enjeu, la radio insolite. Et
ouais.
On s'est interrogé la semaine dernière, moi pour moi, comme ce sont des vers, entre guillemets, qui permettent de mettre en musique une chanson, je me suis dit que pour moi, la musique, c'était de la poésie. Et je me suis confronté à des gens qui m'ont dit pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Et là, j'avais l'impression soit de parler à des gens qui étaient un peu des esthètes, des érudits, soit de parler à des gens qui disaient non, c'est la chanson, c'est la chanson, la poésie, c'est la poésie. Pas la même chose.
Non, alors là, on peut passer là-dessus des heures. Hein.
Ah, bah,
sûr, il y a de la poésie dans la prose, dans les gens qui écrivent, qui ont sens de la description, de la métaphore. La poésie, c'est la métaphore. Voilà, la poésie, c'est la métaphore. Alors, elle existe en toute chose. Mais il est clair que dans la chanson, il faut bien séparer la musique des paroles. La particularité de la poésie, en tout cas dans la chanson, c'est qu'elle s'écrit d'abord. Alors, est-ce que c'est la musique qui est... Est-ce qu'on habille la musique qui existait avant la chanson et on dit « trouve-moi des paroles sur cette musique » ou est-ce qu'on dit « ah, j'ai des paroles, trouve-moi de la musique sur ces paroles » ? La démarche n'est pas la même.
Tout à fait.
Et je sais simplement qu'en prenant les grands, j'ai eu l'occasion en son temps d'en parler avec Brassens, par exemple, lui, il avait la double démarche. C'est-à-dire qu'il faisait... D'abord, il avait la musique, ensuite, il habillait la musique avec les paroles, mais il faisait aussi l'inverse.
Oui, tout à fait.
Et il m'avait donné quelques exemples, comme ça, que je n'ai plus en tête. Mais je me souviens, par exemple, que le plus bel exemple, c'est la chanson merveilleuse que chantait aussi très bien Maxime Le Forestier, qui s'appelle « Les Passantes ». Eh ben, « Les Passantes », les paroles ne sont pas de Brassens. Il avait trouvé ça dans une... c'était un poème... Je ne sais plus qui d'ailleurs, qui est connu que pour ces paroles-là. Mmh. Là, la mémoire me fait défaut. Il avait trouvé ça dans une brocante. Mmh. Et donc, il a habillé d'une musique absolument merveilleuse. Et donc, c'est Charles Trenet, c'est la même chose. Prenez un air archi connu comme La Mer. Vous pouvez le réciter, mais vous pouvez le chanter.
Exactement.
Et ce qu'on peut déplorer, c'est que s'il y a une poésie qui c'est une poésie populaire, c'est-à-dire à la portée de tout le monde, ben c'est, la chanson était très porteuse à l'époque. Elle l'est moins maintenant. On peut le déplorer. Moi, je suis pas du genre à dire c'était mieux avant. Hein. Je dis simplement, elle l'est moins. Voilà. Et ça tient à quoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas expert dans ce domaine pour faire des diagnostics, mais je sais simplement qu'il y a toute une catégorie de chansons, jusque dans les années 2000, où les paroles des chansons, c'était vraiment, il y avait une métaphore magnifique. C'est moins le cas maintenant. Mmh. Il est vrai que je suis moins... Est-ce qu'il y a de la poésie dans le rap? Probablement, oui. Je ne suis pas adepte, ou je n'ai pas tout compris.
Ah,
tout à fait. C'est pas bien.
Si, mais hein? Tout à fait, complètement.
Voilà, je dis, voilà. Mais ça me touche moins. Voilà.
Ouais. Ok, bon, bah, écoute, donc en fait, j'ai quelques réponses quand même sur le fait de me dire comment je fais pour m'occuper, ou bien je ne m'occupe pas et je m'assieds et j'écoute les petits oiseaux gazouiller, je regarde le ciel, je vais me balader dans les forêts. C'est à peu près la réponse que tu m'as donnée sur la question que je me posais, qu'est-ce que je fais pour... combler.
Ah bah oui, demain, par exemple, je sais que je vais marcher. Alors, marcher, c'est pas sortir, c'est marcher. Je sais que j'ai envie de marcher.
Voilà. Marcher, c'est pas sortir, j'ai envie de marcher. Ouais, mais enfin, si tu vas marcher dans ton salon.
Je pourrais.
Oui.
Je pourrais. Mais non, c'est-à-dire que je peux très bien dire j'ai envie de sortir. Et moi, je dis pas j'ai envie de sortir, je dis j'ai envie de marcher. Parce que, évidemment, c'est un peu... Je vais sortir aussi... je vais marcher habillé, je ne vais pas marcher à poil.
Ouais. Hein,
mais voilà, mais je vais d'abord marcher. D'abord parce que marcher, alors pendant au-delà d'une heure, donc je vais marcher pendant 3-4 heures, et je sais qu'il y a des tas de choses qui vont me passer par la tête. Ouais. Voilà. Et je sais que je n'aurai pas... Alors pour le coup, c'est une façon de parler qu'on n'a pas utilisée, je sais que je n'aurais pas perdu mon temps.
Mais on est totalement d'accord. Moi, la semaine dernière, j'étais avec Michel Verrier, qui est sculpteur, artisan, qui devait participer au Festival des métiers de montagne à Chambéry, et qui me disait tous les matins, tous les soirs, il a la chance d'être à côté d'un bois. Il me disait, je pars me balader pendant une heure et demie dans la forêt, parce que je me ressource, je me retrouve dans un autre univers. Un moment, il me faisait rire, il me dit, je prends même le risque de partir sans téléphone, comme ça...
Surtout sans téléphone.
Voilà.
Surtout sans téléphone. Alors, se ressourcer, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Se ressourcer.
Un retour aux fondamentaux, comme il me disait, pour te dire.
Remonter à la source.
Oui.
Alors, moi, ma source, je ne sais pas où elle est. Hein. Je sais simplement que je suis bien. Voilà. Je suis bien. Alors, pas dérangé, je marche. Il y a le hasard qui peut, il y a un animal qui passe, un bruit qui me fait penser à ça, ça me fait réfléchir à ça. J'ai pas d'ordre dans mes pensées, je me balade dans les mains dans les poches crevées, comme disait l'autre. Voilà, c'est ça. Il pleut, il fait pas beau, je m'en fous. Voilà.
C'est le fait de se dire, je me retrouve avec moi-même.
Oui, bah d'abord parce qu'on se fréquente depuis longtemps.
Bah oui.
Et vaut mieux s'entendre avec soi. Mais des fois, ça marche pas si bien que ça. Des fois, on s'entend pas avec soi et donc ça fait, on règle ses comptes là. Mm-hmm. Voilà, voilà. Mais on tue pas le temps, quoi. Le temps n'est pas fait pour être tué. Parce qu'un jour, c'est lui qui nous tue. Hein.
Je voulais te remercier de m'avoir donné ces quelques minutes pour échanger encore. C'est vrai qu'on est toujours dans cette notion de réflexion sur comment faire, comment s'occuper, comment faire pour garder le moral, c'est le plus important. Et puis voilà quoi. Ok. Merci à toi.
Bye bye. Salut.